Histoire Actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des expositions d'histoire, rapport entre histoire et passé. Pour commencer, nous nous rappellerons qu'il y a 50 ans, en 1969, à New York, se déclenchaient les émeutes dites de Stonewall, considérées comme le moment fondateur du mouvement LGBT, un événement qui est au cœur justement des commémorations à la fois à New York, mais également à Paris, puisqu'il y a un grand festival qui va s'ouvrir autour de ces questions avec des films LGBT à la Cinémathèque française, mais également une exposition. Didier Rod-Bettoni en est un des co-commissaires, il est critique, et cette exposition s'intitule Chant d'amour, 100 ans de cinéma arc-en-ciel, c'est à l'Hôtel de Ville de Paris. Puis nous nous demanderons pourquoi les questions liées au cannabis et plus généralement aux politiques des drogues sont si délicates à manier en France avec la chercheure à l'INSERM, Marie Geoffrey Roustide, qui sera en deuxième partie de cette émission. Emily Meffre, dans sa chronique mensuelle Un saut dans la loi, nous rejoindra pour nous rappeler pourquoi 1979 fut une date importante à la fois pour la Grèce mais également pour l'ensemble de l'Europe. Et enfin, Jean-Marc Bastière, rédacteur en chef de notre partenaire Le Monde Histoire et Civilisation, nous parlera de son dossier du mois qui est consacré à Al-Andalus.
Linjao a 16 ans, 16-17 ans, c'est une adolescente. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'effectivement, alors que sa culture familiale et en particulier cette bonne éducation ne la portait pas nécessairement vers le communisme, ce qu'elle pouvait voir de la Chine la révoltait. C'était une jeune fille révoltée. Et la révolte a passé par ce choix du communisme. En fait, c'est là où on se rend compte que Linjao ne connaissait le communisme que d'un point de vue extrêmement théorique et que la culture du parti communiste lui était complètement étrangère et ne correspondait pas du tout à sa façon de fonctionner. À l'époque, le parti communiste était clandestin et rentrer au parti communiste nécessitait un certain nombre de précautions qu'elle n'a pas voulu suivre et pour cette raison, avant donc 1949, on est toujours en 1948, elle a été exclue. Et elle s'est sentie très malheureuse, rejetée par cette famille dans laquelle elle voulait entrer. Et du coup, par la suite, quand elle a rejoint à nouveau les forces communistes en 1949, quand elle allait dans cette école de journalisme à Sunan, elle a tout fait pour se faire accepter.
Alors, y compris la dénonciation de ses parents comme bourgeois et bureaucrate réactionnaire.
Exactement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en faisant cela, elle se mettait elle-même dans une situation impossible parce que en déclarant ses parents bourgeois, elle s'étiquetait elle-même appartenante à la bourgeoisie. Et toute cette réforme à laquelle elle a été soumise et à laquelle ont été soumis justement toute cette génération d'intellectuels, de jeunes chinois éduqués qui ont rejoint le communisme, était évidemment faite pour, d'une certaine façon, bien les faire comprendre que le communisme était un parti du peuple, un parti des paysans et non pas un parti de lettrés cultivés. Et elle s'y est soumise pour prouver qu'elle valait, elle méritait d'être acceptée dans les rangs du communisme.
Et pourquoi vous parlez de Lin Zhao, donc l'héroïne du livre de Anne Kerlan, Combattante de la liberté, paru chez Fayard? Eh bien, tout simplement parce que cette semaine, c'était mercredi, au Sénat, a été remis le prix du livre d'histoire 2019 du Sénat, donc à Anne Kerlan pour ce très beau livre dont elle nous parlait il y a quelques mois dans la Fabrique de l'Histoire, qui nous raconte cette histoire incroyable d'une jeune combattante acharnée du communisme au départ et qui va finir par en être la victime. C'est donc au cœur de ce livre paru chez Fayard. Nous voulions lui rendre hommage et puis aussi mentionner le travail qui a été donc deuxième sur le podium de ce prix du livre d'histoire du Sénat. C'était celui de Léonard Dauphan pour son très beau livre également, Géographie, qui nous raconte l'espace français pendant le Moyen-Âge. Comment savait-on que l'on était sur le territoire du Royaume de France et où s'arrêtaient les frontières de ce propre pays? Et d'ailleurs, puisque nous parlons d'un prix, eh bien, nous pouvons saluer également, ça fait partie de notre discussion avec vous, Didier Rod-Bettoni, bonjour.
Bonjour.
Saluer également les outdoors qui ont été remis, c'était aussi mercredi soir, je crois. Oui. Que sont les outdoors d'ailleurs, Didier Rodbetoni?
Alors, ce sont une série de prix qui est remis par l'association des journalistes gays et lesbiens, qui a des médias, à des documentaires, à des reportages dans la presse, donnent un traitement valorisant, intéressant, original à toutes les questions LGBTQI.
Et donc, ces outdoors ont diverses catégories. Parmi les catégories, on peut saluer la catégorie documentaire. Thomas Duterre, notre réalisateur d'aujourd'hui, et Franck Thoraval concouraient pour cette catégorie documentaire avec le documentaire de la Fabrique de l'Histoire sur les pionniers du Gay Marais, qui a été diffusé cette année. Mais c'est Perrine Kervan de la série documentaire qui l'a emporté. On peut saluer ce magnifique travail qu'elle a mené, en particulier justement autour de la question des transidentités. C'était la série de France Culture dans la série documentaire autour de cette question. Et nous allons parler justement de toutes ces questions avec vous, Didier Rodbetoni, à propos des 50 ans de Stonewall, qui d'ailleurs ont trouvé leur place dans cette cérémonie des Outdoors, mercredi dernier.
Stonewall, c'était le moment, au moins dans l'histoire aux États-Unis, où les PD ont vraiment résisté enfin. Les polices. Il y avait une descente, comme on avait souvent. Tout le monde, au lieu de se disperser, ils ont resté sur place. Et puis, il y avait une lutte dans la rue, parce que les flics sont arrivés. Ils pensaient que, oui, c'est facile, comme toujours, tout le monde part. Donc, ils ont décidé seulement d'arrêter l'équipe qui travaillait dans le bar. Mais ça, c'était déjà une vingtaine de personnes. Donc, ils n'avaient pas une voiture assez grande. Donc, ils ont laissé deux flics dans le bar avec 10 de leurs prisonniers, et les autres 10 sont partis avec deux, et en attendant la foule devant la porte dans la rue, on est devenu très excité, on a jeté du feu, des pierres, on a cassé les fenêtres. Et puis, on a battu contre eux. Il y avait une dispute pendant 3 jours qui était comme notre jour de la Bastille. On a inventé sur le champ des slogans comme « Gay is good » parce que les gens disaient « Black is beautiful » à l'époque. D'être noir est beau, donc d'être pédé est bien. Et pas tout de suite, mais bientôt après, je me suis senti libéré.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Un extrait d'une émission de France Culture dans laquelle était interrogé le grand écrivain Edmund White, qui se souvenait justement, Edmund White, de ces émeutes de Stonewall qui sont célébrées. C'est peut-être le moment le plus important, puisqu'elles sont célébrées un peu mondialement aux États-Unis, mais également en France. Et vous participez donc, Didier Rodbetoni, à cette célébration, pourrait-on dire, avec l'exposition que vous avez co-construite autour du 100 ans du cinéma, donc gay et lesbien. Donc c'est un champ d'amour, cette exposition, c'était à l'Hôtel de Ville.
Ça n'ouvre que mardi. Hein.
Ça n'ouvre que mardi. Et par ailleurs, il faut mentionner que la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, a nommé une place des émeutes de Stonewall. Donc ça a été inauguré récemment. Et comme si cet événement new-yorkais était devenu un événement mondial.
Mais ça a été très vite un événement mondial. C'est ça qui est formidable. On le comprend un peu dans ce que dit Edmund White. L'écho de cet événement, de ce surgissement de l'homosexualité dans le champ public, puisque jusque-là, l'homosexualité était un problème privé. C'était une question d'individus face à eux-mêmes, souvent réprimés par la loi dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis. Tout d'un coup, ça devenait un problème, enfin une question collective, une question portée sur un terrain politique. Il y avait une forme de surgissement qui s'est très vite traduite au-delà des États-Unis, puisque dans la foulée de Stonewall, c'est-à-dire Stonewall, c'est juin 69, l'année suivante, il y a la première Gay Pride à New York toujours, mais dès le début des années 70, il y a la création de toute une série à travers le monde d'associations militantes, mais vraiment militantes, radicales pour le coup, politiques, qui vont surgir. Le phare en France, le front homosexuel d'Action Révolutionnaire, en Allemagne également, autour d'un film. Je rejoins un peu le thème de l'exposition là, puisque ce qui est sidérant, c'est de voir qu'en Allemagne, par exemple, en 1971, ce surgissement du militantisme homosexuel, LGBT, comme on ne le disait pas à l'époque, se fait autour d'un film de Rosa von Praunheim qui porte un titre qui est incroyablement politique et qui résonne encore, qui est « Ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers, mais la société dans laquelle il vit ». Donc, ce titre-là, le fait que le cinéma accompagne ce mouvement-là, montre bien que partout dans le monde, sous diverses formes, de diverses natures, des mouvements politiques représentant les homosexuels vont émerger. Et ça, c'est vraiment l'écho de Stonewall.
Alors, Stonewall, il faut peut-être rappeler ce que c'est exactement. Ce sont 6 nuits d'émeutes qui se déroulent dans un quartier de New York, du côté de Greenwich Village.
Christopher Street,
essentiellement. Christopher Street. Et Stonewall, c'est le nom d'un bar.
Oui, le Stonewall Inn, qui est le nom d'un bar, effectivement, qui était fréquenté par la communauté gay, lesbienne, trans, blanche, mais aussi noire, latino. C'est ça qui est très intéressant. C'est de voir à quel point ce mouvement va être aussi un mouvement qui va transcender les catégories, qui va transcender les genres, pour le coup. Et donc, c'est ce bar qui appartenait à la mafia, comme beaucoup de bars, parce que c'était le seul moyen de vendre de l'alcool, donc plus cher.
Et puis, il y avait une prohibition sur les relations sexuelles.
Exactement.
Sur le fait de danser ensemble,
il fallait porter 3 vêtements de son genre, sinon on était passible de prison. Donc il y avait toute une série de règles qui se posaient. Donc dans ce bar, une descente de police, comme il y en avait très régulièrement pour justement contre cette vente d'alcool prohibée, cette descente tout d'un coup dégénère. Alors qu'il y avait déjà eu ce type d'action à San Francisco 3 ans plus tôt, il y avait déjà eu ce type de révolte dans la rue des habitués d'un bar dans lequel il y avait eu une descente de police. Ça n'a pas eu le même écho. Il se trouve que là, tout d'un coup, on était dans un moment qui en rejoignait beaucoup d'autres, quoi.
Oui, parce qu'il faut se souvenir que Richard Nixon était le président des États-Unis, que nous étions en pleine guerre du Vietnam et qu'évidemment...
Oui. Il y avait aussi la question des droits civiques qui n'était pas loin, les mouvements des femmes qui étaient aussi à ce moment-là. Donc, toute une convergence de choses qui font que le mouvement homosexuel prend corps vraiment à ce moment-là.
Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que on aurait pu s'attendre que ça soit en Californie que démarre justement ce genre de mouvement et pas à New York, parce que la Californie avait une tolérance vis-à-vis justement des droits des homosexuels gays et lesbiens plus grande que à New York. Et c'est pourtant là, et c'est peut-être parce qu'il y avait justement répression, que c'est là que ça démarre.
Exactement, puisque cette règle des 3 vêtements dont je parlais tout à l'heure, elle s'appliquait à New York, mais dans beaucoup d'autres endroits, et notamment en Californie, elle ne s'appliquait pas à ce moment-là. Donc il y avait effectivement une oppression spécifique à New York contre les homosexuels. Et donc ça dégénère. Il y a les policiers, comme le racontait Moonwhite, sont obligés de se replier dans le bar parce qu'il y a une foule qui grossit à l'extérieur. Tout d'un coup, quand les forces de renfort arrivent, les gays, les lesbiennes, les trans se manifestent de façon très violente, très virulente.
Lancent des bouteilles, des pierres,
chantent des slogans, parce que c'est à la fois un mélange très violent et très joyeux, parce qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce qui est lancé. C'est gay power, c'est fag power que les manifestants lancent à la face des forces de l'ordre. Donc il y a à la fois ce mélange de dérision et d'affirmation, quoi. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui finalement encore dans les gay pride, dans les marches des fiertés qu'on retrouve à travers le monde, ce mélange à la fois de militantisme et de fête.
Oui, alors ce qui est très étonnant effectivement, c'est que le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé cette semaine la création, qu'ils allaient subventionner, la ville de New York allait subventionner la création de 2 statues, à la fois Sylvia Rivera et Marsha Johnson, qui sont 2 héroïnes justement de ce moment de Stonewall.
Deux héroïnes trans.
Trans, voilà, il faut le préciser. Et qu'elles auront leur statut à New York d'ici quelques temps. Qu'il va y avoir une World Pride à New York entre le 26 et le 30 juin pour justement célébrer ses 50 ans. Et donc qu'il y a ces manifestations à Paris autour de cette question de Stonewall et de sa commémoration. Rappelons justement avec une archive peut-être ce qu'a été la naissance du mouvement un an après Stonewall. Nous étions le 28 juin 1970 et le journaliste Emmanuel Delataille, qui était le correspondant de l'ORTF à New York, plutôt à Washington, raconte ces manifestations qui se déroulent un an après Stonewall. On écoute le ton.
Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. Ces hommes, ces femmes qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Leur mouvement est leur mouvement de libération des homosexuels en Amérique. Cette manifestation se déroule à New York, ville où l'on en a vu d'autres. Ailleurs en Amérique, il faut bien le dire, elle ferait scandale. Dans la plupart des villes américaines, les homosexuels sont l'objet de la suspicion populaire, ils sont écartés de beaucoup d'emplois et ne peuvent en principe prétendre à aucune carrière politique. C'est justement ce contre quoi le mouvement de libération des homosexuels entend protester. À leur manière, les homosexuels américains réclament ce que réclament beaucoup de minorités américaines, être intégré tout en affichant sa différence. À leur manière aussi, ils prétendent réunir dans leur confrérie des gens de toute classe, de toute condition et de toute race. Inutile d'ajouter que la majorité silencieuse qui soutient le président Nixon contemple à la télévision ce genre de manifestation d'un œil rond.
C'est sûr que aujourd'hui, 50 ans plus tard, le président Nixon, s'il était encore vivant, serait sûrement surpris justement de ces commémorations, de ces hommages rendus auparavant par Barack Obama et par d'autres, et de ces demandes aussi de ceux qui aujourd'hui encore sont à Stonewall, parce que ce bar existe encore, même s'il a été
Réouvert il y a quelques années.
Il a été profondément transformé dans sa configuration de bar, mais en l'occurrence, ça existe comme un monument et c'est devenu un monument national aux États-Unis, dit Rod Bettany.
Oui, oui, c'est la première fois qu'aux États-Unis un lieu célébrant l'histoire LGBTQI est érigé en monument national. C'était par Barack Obama il y a quelques années. Ouais.
Et le parc qui est en face, justement, à Christopher Street, est devenu parc national.
Tout à fait.
Avec une ranger lesbienne qui s'occupe de faire visiter ce parc et de raconter l'histoire des émeutes de Stonewall. C'est raconté dans un article qui vient tout juste de paraître cette nuit dans Le Monde, une enquête de Chloé Eberhardt qui raconte ces émeutes de Stonewall. Et une des responsables de ce bar et des mouvements qui le fréquentent dit, eh bien, ça n'est plus à New York qu'il faut faire le combat, mais c'est au Texas, c'est ailleurs, parce qu'il y a aussi un combat à continuer à mener aux États-Unis et ailleurs sur les droits des LGBT.
Mais on le voit bien d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Stonewall, tout de suite après Stonewall, un mois après, il se crée une association, le Gay Liberation Front, qui va créer la marche dont on vient d'entendre sur lequel on vient d'entendre un reportage.
La première
Gay Pride. Et à la suite de ça, les Gay Pride vont essaimer dans le monde entier. Et elles continuent. Aujourd'hui, en France, il y a à Paris, évidemment, la marche des fiertés, mais il y a une vingtaine de Gay Pride dans des villes de région. Et dans le monde entier, dans des pays où la situation est quelquefois très difficile, très politiquement très, très dangereuse pour les militants, des Gay Pride se mettent en place. Il y a eu, encore pas si longtemps, en Russie, des violences absolument incroyables contre les manifestants. Voilà, donc ce combat-là, il n'est pas terminé. Et ce qui est vraiment, je crois que vraiment la leçon de Stonewall, c'est ça. Ça a été ce slogan qui est émergé très vite après. Out of the closet, into the street. Sortir du placard, et aller dans la rue, prendre possession de la rue, prendre possession de l'espace public et exister dans l'espace public.
Est-ce que vous racontez dans cette exposition donc qui ouvrira la semaine prochaine à l'Hôtel de Ville et dans les projections de films qui l'accompagneront, c'est justement cette longue histoire de 100 ans de cinéma arc-en-ciel avec le closet, donc le placard que vous racontez dans un premier temps et puis la sortie du placard progressive, Didier Rod-Bettoni.
Oui, l'exposition elle célèbre deux choses. En fait, elle célèbre à la fois les 50 ans de Stonewall et par une sorte de hasard historique assez miraculeux. Moi, j'aime bien ces concordances de dates.
Oui. Concordances des temps, comme dirait Jean-Jacques
Genet. Exactement. On célèbre aussi les 100 ans du premier film militant homosexuel. C'est-à-dire qu'en 1919, en Allemagne, un chercheur, un sexologue, Magnus Hirschfeld, qui a créé le premier institut de sexologie au monde, fait produire dans le cadre de son institut un film qui s'appelle Autre que les autres, dont le but est de dénoncer le paragraphe 175 du code pénal allemand, qui est un article du code pénal qui criminalise l'homosexualité, même entre adultes consentants, même dans la sphère privée. Et donc, on peut aller en prison si on est dénoncé en tant qu'homosexuel. Et donc, Magnus Hirschfeld fait un film pour dénoncer ça en 1919. Ce film qui a eu une histoire absolument rocambolesque. Les nazis ont détruit toutes les copies. On en a retrouvé une dans les années 80 en Ukraine. Copie extrêmement réduite de quelques trentaines de minutes. Aujourd'hui, on en a reconstitué une cinquantaine. Donc, voilà, c'est le film a une histoire très forte, mais qui prouve à quel point l'histoire dont on dit toujours qu'elle a émergé à Stonewall, finalement, elle a des racines plus anciennes. Même si ces racines, elles sont extrêmement ténues, puisque à part le film de Magnus Hirschfeld, je n'en connais quasiment pas d'autres exemples entre 1919 et 1969.
Sauf que effectivement, il y a eu ce travail sur le celluloid closet, c'est-à-dire sur ces moments où on peut déterminer dans des films hollywoodiens, par exemple, toutes les scènes qui se rattachent à la question homosexuelle, alors que le code Hays et tous les codes hollywoodiens interdisaient ce genre de scènes. Donc comment, par subrepticement, entre des scènes qui sont des scènes effectivement dont on peut penser qu'elles ont été écrites pour cela, mais que le public qui n'imaginait pas qu'on puisse représenter l'homosexualité au cinéma ne voyait pas forcément comme tel.
Oui, tout à fait. Il y a des scènes, effectivement, et le documentaire Celluloid Closet racontait ça très bien. Il y a eu dans le cinéma hollywoodien, donc à partir de 1934, il y a un code de censure qui est mis en place, hein, d'auto-censure plutôt, puisque c'était pas une loi, mais c'est les studios américains qui décident pour répondre aux pressions des groupes religieux et notamment de l'Église catholique qui menace de boycotter ces films, d'exclure toute une série de représentations dont l'homosexualité. Les perversions sexuelles, comme on disait à l'époque. Et donc, les réalisateurs vont trouver de multiples biais pour mettre ça en avant, pour réussir à glisser des personnages cryptés homosexuels ou lesbiennes dans les films. Après, il y a aussi notre lecture quelques décennies plus tard qui nous permet de lire des choses qui n'y étaient peut-être pas, mais après tout, c'est aussi le jeu de l'art de laisser libre cours à l'imagination des spectateurs et des spectatrices. Donc voilà, donc on essaie de raconter ça aussi dans l'expo, ce passage-là. Et puis, en parallèle, enfin, ce code, il va avoir... quand on dit ça, qu'il y a eu des personnages cryptés, on a l'impression que c'est quelque chose de joyeux et de positif de faire introduire ces personnages par la bande. Mais pas toujours. C'est-à-dire que le code va évoluer. On va avoir dans un premier temps ces personnages un peu léger, un peu exotique, qu'on peut lire comme des homosexuels plutôt bien, de façon bienveillante. Puis petit à petit, ça va être une forme de démonisation, une forme de représentation extrêmement négative, de plus en plus négative. Il va falloir faire comprendre que ce qu'on ne peut pas dire, c'est vraiment le pire du pire. C'est vraiment l'abomination. Donc, le code, il va avoir toutes ces vertus-là, toutes ces conséquences-là. Mais on essaie aussi de raconter que dans d'autres pays, notamment en France, cette loi ne s'applique pas, évidemment. Et donc, il y a des choses beaucoup plus positives. Et puis, on essaie aussi de raconter le foisonnement, petit à petit, qui se met en place de différentes manières, par le cinéma expérimental à partir des années 40-50, par l'arrivée, autour de la libération sexuelle, on voit bien que plein de choses se mettent en place dans les années 60 sur les représentations de la sexualité.
Même Luchino Visconti avec Mort à Venise.
Exactement. Donc voilà, on essaie de raconter la multiplicité de ces histoires et de ces représentations.
Et puis, toutes les années 80, Patrice Chéreau, Almodovar et bien d'autres,
oui,
font monter d'une certaine façon façon dans la visibilité ces questions des droits des homosexuels, des comportements et de la vie des homosexuels face à des publics qui ne s'y attendent pas forcément. Parce qu'il y a aussi cette façon aussi de prendre le public à témoin de cette nécessité justement de conquérir de nouveaux droits.
Oui, oui. Et puis, au-delà même de la conquête des droits, je crois que la première question qui se pose par rapport au cinéma, c'est la représentation, la visibilité. C'est le modèle que les spectateurs LGBTQI peuvent retrouver d'eux-mêmes à l'écran, et aussi les images que les spectateurs lambda peuvent avoir de personnes dont ils ne soupçonnent pas les existences ou dont ils méprisent les existences. Voilà, je crois que c'est un des enjeux du cinéma. Et moi, j'ai envie de dire quand même que ces enjeux-là, ils se posent effectivement dans les films d'auteurs que vous citiez, Mort à Venise, les films de Chéreau, beaucoup d'autres, et même le cinéma d'auteur plus contemporain. Mais ils se posent aussi dans la comédie populaire.
Bien sûr. Et vous assistez là-dessus dans l'exposition.
Oui, nous sommes 5 co-commissaires. On avait vraiment eu envie de montrer qu'il y avait effectivement ce cinéma d'auteur, ce cinéma riche de contenu et de forme, mais qu'il y avait aussi dans le cinéma populaire, dans le cinéma très grand public, dans des comédies dont La Cage aux Folles est sans doute le parangon, aussi des choses très intéressantes qui pouvaient se passer un peu à l'insu de ceux qui les voyaient.
Et c'est donc Chant d'amour, donc on voit la référence évidemment à Jean Genet. 100 ans de cinéma arc-en-ciel, c'est donc à partir de la semaine prochaine à Paris, à l'Hôtel de Ville.
C'est une exposition gratuite pendant tout l'été.
Voilà, une exposition gratuite, et puis accompagnée par un programme de cinéma, et en particulier il y aura un programme spécifique à la Cinémathèque française.
Alors il y a une programmation à la Cinémathèque française qui a démarré avant-hier, je crois, qui se poursuit jusqu'à la mi-juillet, dans mon souvenir. Et par contre, l'expo dure jusqu'à fin septembre.
Merci beaucoup Didier Roth-Bettoni. Et on peut toujours lire votre livre qui est une somme sur cette question-là, à savoir l'homosexualité au cinéma, aux éditions La Musardine. On le trouve en bibliothèque, il est encore disponible.
Alors, je crois qu'il est un peu épuisé.
Et c'était en 2007, c'est ça?
C'était en 2007 et je travaille sur une mise à jour, mais c'est un lourd travail.
Merci beaucoup Didier Roth-Bettoni.
Merci.
C-H-I-S-C-H-I-C-H.
Théophile Gautier nous dit que dans l'état du haschich, ce qu'on voit, c'est soi-même agrandi, sensibilisé, excité démesurément. Et à ce moment-là se produit l'anomalie qui suit toujours l'intensité. Un dérèglement dans une machine surtendue, survoltée, un dérèglement suit fatalement l'expérience, la première phase de l'expérience. Et ce qui va se produire, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui est à la base de la grande théorie romantique, c'est ce que les Allemands ont appelé l'Einfühlung.
Le nom seul le dit. En arabe, celui qui consomme le hashish, ce sont des hashishins, dont nous avons fait le mot assassin.
Henri de Montfred, 1971.
Parce que ceux qui employaient cette drogue, qui s'étaient réfugiés dans une montagne précisément parce qu'ils l'employaient d'une façon illégale, c'est-à-dire qu'ils ne s'astreignaient pas aux règles qu'on impose à ceux qui l'emploient. Et ils descendaient dans les plaines, dans des accès de folie, ils massacraient, faisaient des choses épouvantables, d'où le nom assassin.
Un extrait du documentaire qui avait été produit par Olivier Chaumel et Françoise Camard pour la Fabrique de l'Histoire en octobre 2015 autour de l'histoire du haschich, suivi par le titre Cannabis de Nino Ferrer. Bonjour Marie-Geoffrey Roustine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'INSERM. Vous avez fait des études de sciences politiques, de sociologie, et vous travaillez justement sur l'acceptabilité de ces questions des politiques des drogues dans les sociétés européennes et en particulier dans la société française. Et nous voulions de vous avoir cette semaine, parce que on a appris donc que le gouvernement refusait l'usage du cannabis récréatif. Ça a été encore reprononcé hier, mais que de son côté, le CSE, le Conseil social et environnemental, préconisait une libéralisation dans ce domaine, et que la question du cannabis thérapeutique était à nouveau posée dans la société française. On voulait vous demander votre avis de chercheur sur ce regard particulier porté par la France sur cette question des drogues, et en particulier sur cette question du cannabis. Ça remonte où, cette volonté d'interdiction, cette difficulté d'accepter ou de libéraliser le cannabis dans la société?
Alors, cette question des drogues, c'est une question complexe, et donc elle agite la France, mais elle agite également d'autres pays. Hein. Vous parliez de l'Europe, mais par exemple les États-Unis sont un des pays les plus répressifs au monde, hein, en matière d'usage de drogue. Et la guerre à la drogue a été inventée par Nixon, qui a été évoquée tout à l'heure. Alors en France,
et qui a été un véritable échec aux États-Unis en tout cas.
Qui est un échec partout. C'est-à-dire que la guerre à la drogue a donné lieu donc à la prohibition, donc qui consiste à dire qu'il faut éradiquer les drogues dans les sociétés pour protéger les populations. Et ce qu'on voit, c'est que malheureusement, les pays qui sont les plus prohibitionnistes, non seulement ne permettent pas de faire diminuer la consommation de drogue dans la population, mais en plus entraînent un nombre de dommages extrêmement importants. C'est le cas par exemple en Russie. Alors là, on est loin du cannabis, mais en Russie par exemple, qui est un pays qui est extrêmement strict vis-à-vis des pratiques d'injection et qui interdit la libéralisation des seringues, contrairement à la France, c'est un des pays où on est les taux de VIH les plus importants. Donc en fait, interdire la consommation a des effets délétères. Alors pour revenir à la question du cannabis, mais bon, qui a un lien avec les politiques des drogues de manière générale, la France a un regard particulier parce que la loi qui régit l'usage de drogue aujourd'hui a été votée le 31 décembre 1970.
Et ça veut dire que, comme pour la question de l'homosexualité dont on parlait auparavant, c'est cette fin d'année 60 et ce début d'années 70 sont cruciaux.
Tout à fait. En fait, il y a des parallèles. Quand je vous entendais tout à l'heure, il y a vraiment des passerelles à faire entre ces deux questions. Et en fait, dans les années 70, on est juste après mai 68, et donc il y a dans la volonté des législateurs l'idée qu'en criminalisant l'usage de drogue, on va criminaliser des groupes de population. Et donc l'idée du législateur à l'époque, c'est de se dire, on a des groupes de hippies, entre guillemets, je reprends les termes de l'époque, qui sont contestataires vis-à-vis du pouvoir en place, et donc ces groupes de hippies sont perçus comme des consommateurs de drogue, et donc en criminalisant la pratique de l'usage de drogue, le pouvoir politique pense à l'époque pouvoir criminaliser aussi ces groupes de consommateurs. Donc en fait...
Ouais, le pouvoir politique ne doit pas lire Jean-Patrick Manchette à cette époque-là, parce qu'il aurait compris que ça n'était pas le cas, mais voilà.
Exactement, mais en tout cas, dans l'esprit de l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, on le voit dans les débats parlementaires, il y a l'idée, en fait, que certains groupes de population qui vont consommer des drogues sont des groupes de population qui appartiennent souvent dans l'esprit du politique aux classes populaires, et donc qu'il faut réguler tout ça et encadrer tout ça en interdisant.
Mais alors, revenons à cette question du cannabis qui est en débat cette semaine un peu partout. Cette question du cannabis est particulière, où il faut la lier justement à toutes ces questions des politiques des drogues sur lesquelles vous avez d'ailleurs conçu un numéro de la revue Esprit il y a quelques temps?
Alors, moi, à titre personnel, je pense que il est important de penser la question du cannabis de manière globale. Mais il y a une spécificité sur la question du cannabis par rapport aux autres drogues, c'est son niveau de consommation. C'est-à-dire le cannabis est très largement consommé en France. On a la moitié de la population qui a déjà expérimenté le cannabis, près de 10% des Français qui en sont des consommateurs réguliers. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, dans le débat public, il y a une spécificité du cannabis, parce qu'en fait, les Français se sentent concernés parce que autour d'eux, ils ont soit eux-mêmes consommé du cannabis, soit des proches qui consomment du cannabis. Et donc c'est pour ça que le débat, il est particulièrement visible et particulièrement agité sur la question du cannabis, parce que chacun se sent concerné. Alors que ça va moins être le cas, par exemple, sur la question de l'injection de l'héroïne ou de la cocaïne, qui concerne là un nombre beaucoup plus restreint de consommateurs.
Et tout de même, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde veut y prendre part à ce débat. On voit bien qu'il y a à la fois des citoyens consommateurs et non consommateurs, qu'il y a des hommes politiques de niveau national, mais aussi des élus locaux, parce qu'évidemment, ils ont affaire dans leur propre ville à ces questions de trafic et qu'ils n'ont pas tous les mêmes approches et qu'elles ne sont d'ailleurs pas forcément partagées entre gauche et droite de façon relativement classique, Marie-Geoffrey Roustil.
Alors, ce qui est intéressant justement sur la question des drogues, c'est que généralement le clivage droite-gauche ne fonctionne pas si bien que sur d'autres sujets. Par exemple, sur la question de la politique de réduction des risques, donc la mise en vente libre des seringues, les traitements de substitution, là, ce sont des gouvernements de droite, en particulier souvent des femmes, comme Simone Veil, comme Michel Barzac, qui ont voté donc des politiques de libéralisation. Sur la question du cannabis, aujourd'hui, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on voit que la gauche et la droite peuvent, on peut entendre des discours avec des volontés d'encadrement très fort, par exemple, du côté de la gauche, avec la volonté d'encadrer pour certains et de continuer à interdire. Et à droite, on peut aussi parfois entendre des discours avec une volonté d'interdire, mais parfois aussi une volonté de libéraliser, avec l'idée que derrière cette question de la libéralisation de la vente du cannabis, il y aurait des profits à faire. Mmh. Donc avec une...
l'idée qu'on pourrait être entrepreneur d'une certaine
façon. Tout à fait, entrepreneur avec une idéologie un peu néolibérale derrière, avec le modèle de la légalisation du cannabis aux États-Unis qui a donné lieu à un commerce florissant et donc avec l'idée qu'il pourrait y avoir derrière la création d'emplois.
Et puis, il y a aussi cette dimension, si on est élu local, qu'on soit de gauche ou de droite, que ferait-on si d'un seul coup, trop rapidement, cette question de la libéralisation entrait en jeu pour le cannabis, il y aurait déstabilisation de certains trafics, déstabilisation de certains quartiers, et donc à partir de ce moment-là, peut-être des flux de circulation monétaire qu'on ne pourrait plus véritablement contrôler. Certains élus en parlent ouvertement.
Alors il y a cette question-là et puis également ce que d'autres élus mettent en évidence, c'est la possibilité qu'il puisse y avoir des reports du trafic de cannabis vers d'autres types de trafic. Donc en fait cette question elle est très complexe et pour le moment je pense que ce qui est important également c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire que la France sur le cannabis, le gouvernement l'a rappelé, a la volonté en fait de distinguer ce qui est de l'ordre du thérapeutique, donc avec l'autorisation par l'ANSM de la mise en place du cannabis thérapeutique, mais de rester sur une position très stricte qui vise à continuer à criminaliser l'usage privé de cannabis, alors qu'à l'étranger, vous avez par exemple aux États-Unis, au Canada ou en Uruguay, une légalisation du cannabis. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger. Alors, les dernières données montrent que les choses sont plus complexes que ce qu'on pouvait imaginer. Mmh. C'est-à-dire que au début de la légalisation du cannabis, de nombreux chercheurs, hein, dont je fais partie, ont trouvé que c'était une perspective intéressante parce qu'en fait, ce qu'on sait, je viens de le dire, la prohibition ne fonctionne pas. Donc en fait, comme la prohibition ne fonctionne pas, on se dit la légalisation peut être une solution. Mais en tout cas, ce que je continue à titre personnel à penser que la prohibition ne fonctionne pas, mais les dernières données qui ont été publiées par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur l'expérience américaine montrent par exemple que le fait que l'encadrement soit fait dans un cadre privé peut donner lieu à un certain nombre d'abus, avec une course à des cannabis de plus en plus dosés, par exemple, et donc une exposition à des risques accrus. Ce qu'on peut voir, d'après les dernières données, c'est que le fait de légaliser fait augmenter la consommation en population adulte. Par contre, il y a plutôt une baisse ou une stabilisation chez les plus jeunes. Mais ce qui est très intéressant également aux États-Unis, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une discrimination raciale aussi qui est très présente dans les avec la question de la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que le marché ne profite qu'aux blancs et les populations noires et latino en sont exclues. Donc en fait, c'est aussi un vecteur de reproduction des inégalités, alors qu'on avait l'impression, en tout cas, c'est présenté en France parfois comme un moyen de réduire les inégalités sociales et de créer des emplois.
Et si on conclut avec vous sur cette question du cannabis et de ses usages, mais aussi des regards portés par la société et par la politique sur ces usages du cannabis, on peut s'étonner tout de même. Le documentaire dont on a passé un extrait tout à l'heure revenait sur ce 19e siècle pour qui les drogues étaient une sorte de récréation. D'ailleurs, on appelle ça usage récréatif. Une récréation pour les intellectuels, pour toute une partie de la population qui considérait que c'était positif que de avoir un usage de ces drogues comme le cannabis ou comme l'opium. Qu'est-ce qui a virer au bout du compte pour que la loi de 70 dont vous parliez tout à l'heure et puis le regard porté sur cette consommation de drogue soit différent aujourd'hui de ce qu'elle était il y a un siècle?
Mais c'est la question de l'instrumentalisation politique et des groupes sociaux concernés. C'est-à-dire qu'avec mai 68, c'est la question des jeunes qui occupent le devant de l'espace public. Et donc, il y a à la fois la volonté de criminaliser certains groupes de consommateurs, mais la crainte également pour certains hommes politiques que les jeunes se mettent à consommer. Et donc, les jeunes, c'est potentiellement leurs propres enfants. Donc, ce qui caractérise le débat aujourd'hui, c'est la dimension morale. Et ça, on peut effectivement, se dire que c'est un vrai problème en France que la question morale soit au centre de la question des drogues. Parce que ce qu'il est quand même important de rappeler, c'est que la majorité des usages de cannabis en France et ailleurs sont des usages régulés, comme vous le rappeliez. Et donc, en fait, ces usages régulés, ils ne posent pas de problème ni pour les individus, ni pour la communauté, ni pour la société. En revanche, il y a des usages de cannabis qui peuvent devenir problématiques. Et c'est, en fait, dans ce sens-là qu'il faut plus de santé publique, plus de prévention. Et c'est pour ces usages qui ne sont pas régulés qu'il faut penser les choses. Mais c'est pas en criminalisant l'usage pour tout le monde qu'on va régler la question des usages problématiques, là, qui relèvent plutôt d'une prise en charge sanitaire, sociale.
Vous n'avez pas l'impression de piétinement, vous qui travaillez depuis un certain temps sur ces questions, Marie-Geoffrey Rostide, c'est-à-dire que au bout du compte, on rejoue un peu toujours la même scène, même si elle est sûrement différente chaque décennie, mais néanmoins, un gouvernement qui dit non à l'usage récréatif, oui peut-être à l'usage thérapeutique, c'est quelque chose qu'on a avancé sur ces questions-là, si on considère que c'est un progrès. En tout cas, on a changé de position. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a des avancées du côté du thérapeutique, parce qu'en fait, il y a quelques années, il y avait une confusion entre les débats et la vision morale de l'usage de drogue était tellement prégnante qu'on ne pouvait même pas parler d'usage thérapeutique du cannabis. Donc, le fait que le gouvernement ait accepté d'avancer sur l'usage thérapeutique, ça, c'est déjà une bonne chose. En revanche, vous avez raison, sur la question des drogues de manière générale, il y a des avancées qui se font à l'étranger, mais il serait vraiment temps d'avoir un débat en France avec l'ensemble des parties prenantes pour dépasser cette vision morale et restrictive des drogues qui empêche de mettre en place des régulations qui soient profitables pour tout le monde.
Merci beaucoup Marie-Geoffrey Rostide. On peut vous lire avec d'autres auteurs sur les politiques des drogues dans un numéro que vous avez coordonné de la revue Esprit qui date de 2017. Merci d'être venu à la Fabrique de l'Histoire ce matin. Bonjour Amélie Meffre.
Bonjour.
Vous êtes présente comme tous les mois dans la Fabrique de l'Histoire pour votre chronique Un saut dans la loi. Je vous rappelle que chaque mois, vous nous rappelez un texte ancien en fonction de l'actualité et en particulier un texte de législation. Et depuis janvier, vous avez consacré votre saut dans la loi à la construction européenne. Et pour clore ce tour d'horizon, vous nous rappelez aujourd'hui quelque chose qui me fait particulièrement plaisir. Vous avez voulu me faire plaisir pour cette dernière prestation dans Un saut dans la loi. Le traité d'adhésion de la Grèce du 28 mai 1979 à l'Union européenne.
Oui, le mois dernier, je vous rappelais les premières élections européennes de juin 1979. Et bien, dans le même temps, la Grèce allait intégrer la communauté européenne. En fait, très tôt, la Grèce souhaite collaborer à la construction européenne, puisque 2 ans après la signature du traité de Rome, en 1957, elle est le premier pays à demander à être associé à la communauté, comme le prévoit l'article 238 du traité. La CE ouvre rapidement des négociations et le 9 juillet 1961, un accord d'association est signé à Athènes. Entré en vigueur en novembre 1962, il prévoit l'instauration, au terme d'une période transitoire de 22 ans, d'une union douanière et l'harmonisation des politiques agricoles et fiscales. Il affirme aussi que la Grèce pourra adhérer à terme à la communauté européenne. Walter Hallstein, président de la commission de la CE, se félicite de cette association en déclarant « La Grèce corrobore les principes politiques auxquels elle est depuis longtemps fidèle, elle consolide sa sécurité en se liant plus fermement avec ses vieux amis et ouvre d'importantes perspectives à son économie ». En décembre 1965, le Parlement européen exprime aussi sa satisfaction face à l'aboutissement des travaux de la commission parlementaire mixte CE-Grèce.
Bref, tout semble aller pour le mieux à ce moment-là.
Eh bien oui, tout semble aller pour le mieux, mais le berceau historique de la démocratie tant vantée va subir une période de dictature de 7 ans. Mmh. Donc, suite au coup d'État militaire du 21 avril 1967, le Parlement européen appelle à un gel de l'association dans l'attente d'un retour des valeurs démocratiques dans le pays. En décembre 69, la Grèce quitte le Conseil de l'Europe qui menace de l'exclure pour non-respect des droits de l'homme. En fait, il faudra la chute de la junte des colonels en juillet 74 pour que le pays réintègre le Conseil de l'Europe. Et donc le 12 juin 1975, le premier ministre grec Constantin Karamanlis du parti conservateur Nouvelle Démocratie, qui a remporté les élections en novembre 1974, dépose officiellement la candidature d'adhésion de son pays à la CE.
Mais ça ne fait pas l'unanimité en Grèce à ce moment-là.
Eh ben non, parce que si Nouvelle Démocratie soutient activement l'adhésion, le parti socialiste PASOK d'Andreas Papandreou et les communistes du KKE s'y opposent, car ils craignent une plus grande dépendance économique et politique du pays. Et puis, du côté de la Commission européenne, on n'est pas très chaud non plus. Le 29 janvier 1976, la Commission pointe du doigt le retard économique de la Grèce et de ses structures agraires. Le pays a en effet un produit intérieur brut 50% inférieur à la moyenne communautaire et un taux de chômage plus élevé. Près du tiers de sa population active est employée dans l'agriculture contre 8% des actifs dans la communauté. Et puis certains de ces produits agricoles risquent de concurrencer des productions excédentaires en Italie ou en France. Bref, la Commission se déclare défavorable à une adhésion rapide et entend imposer à la Grèce une période transitoire.
Mais il y aura un rebondissement et ça sera le 9 février.
Et oui, rebondissement, le Conseil des ministres des 9 va à l'encontre de cet avis de la Commission et accepte la candidature grecque sans imposer de délai. La France et l'Allemagne ont œuvré pour qu'il en soit ainsi. Il s'agit d'aider notamment la Grèce à stabiliser sa jeune démocratie et on peut dire que la volonté politique l'emporte donc sur les réticences économiques. Comme le souligne l'historien Victor Fernandez Soriano, les motivations géostratégiques vont aussi peser dans cette décision. Situé au sud des Balkans, à la limite de l'Europe et du Proche-Orient, le pays est une zone importante. Dans le contexte de la guerre froide, son rapprochement avec les pays ouest européens puis avec le marché commun répond à une volonté d'ancrer la Grèce au bloc occidental. Bref, les négociations d'adhésion commencent le 27 juillet 1976 et aboutissent à la signature du traité d'adhésion le 28 mai 1979 à Athènes. Quelques jours auparavant, la Commission européenne a rendu cette fois un avis très favorable à l'adhésion, mettant en avant le retour au respect des droits de l'homme, et ce n'est pas rien. Le Parlement hellénique ratifie l'acte d'adhésion un mois plus tard, et la Grèce devient le 1er janvier 1981 le 10e État membre de la Communauté européenne. Cette adhésion va ouvrir la voie à celle du Portugal et de l'Espagne 5 ans plus tard, deux pays qui sortent eux aussi d'un régime dictatorial.
Et puis il faut noter effectivement qu'à ce moment-là, il y avait une grande importance à dire que la Grèce, première démocratie donc européenne supposée avec Athènes, rentrait dans la plus grande démocratie de l'époque. Et c'était un des arguments en particulier de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Merci beaucoup Amélie Meffre sur ce thème. On peut lire l'article de Victor Fernandez Soriano. Quel pays plus que la Grèce? La place de la Grèce dans la construction de l'Europe, paru en 2016 dans la revue Histoire et Politique, est disponible sur Cairn. Et on peut aussi consulter, vous l'avez beaucoup consulté et vous l'avez beaucoup cité, et c'est très bien parce que c'est un très bon site, le centre virtuel de la connaissance sur l'Europe. On mettra évidemment le lien sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Et merci beaucoup Amélie pour ces 20 ans de compagnonnage à l'intérieur de la Fabrique de l'Histoire.
Merci à vous.
Bonjour Jean-Marc Bastière.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de notre partenaire Le Monde, Histoire et Civilisation, qui titre son numéro de ce mois « Al-Andalus, le mythe du paradis perdu. Est-ce que c'était une civilisation aussi brillante qu'on l'a dit, cette Al-Andalus?
Alors déjà, Al-Andalus, rappelons-le, c'est cette partie de l'Espagne conquise par les Arabes et les Berbères à partir de 711, qui est devenue musulmane et perdure avec le royaume de Grenade jusqu'en 1492. Oui, pour répondre à votre question, en effet, Al-Andalus a connu une civilisation brillante. Ainsi pouvons-nous admirer aujourd'hui ces joyaux que sont l'Alhambra de Grenade ou l'ancienne grande mosquée de Cordoue. En philosophie, Averroès cherche à retrouver la pureté des textes d'Aristote, tout comme en médecine, avant Zohar, accorde une place cruciale à l'observation et à l'expérience. Al-Andalus fut aussi une plaque tournante dans la passation des savoirs. Les couvents catalans, par exemple, avaient des contacts avec le savoir arabe. C'est dans les abbayes catalanes que le futur pape Sylvestre II a pu approfondir ses connaissances en musique, astronomie et mathématiques. Cela grâce aux manuscrits en latin traduits de l'arabe et inspirés d'auteurs grecs ou persans.
Mais peut-on parler pour autant, Jean-Marc Bastière, d'une époque où juifs, chrétiens et musulmans ont pu coexister de façon harmonieuse?
La réalité historique contredit en partie cette vision idyllique. L'égalité entre les religions d'abord n'a jamais existé dans la péninsule ibérique à cette époque. S'ils pouvaient pratiquer leur culte, juifs et chrétiens étaient aussi soumis à des discriminations fiscales, civiles et juridiques. Mais c'est surtout à partir du XIIe siècle, sous les Almoravides puis les Almohades, que les choses s'aggravent. Le rigorisme religieux de ces souverains musulmans contraste avec la liberté de vie qu'ils trouvent en Espagne. Ils convertissent de force les minorités ou les expulsent. Un certain nombre de juifs trouvent refuge au Maroc ou dans les royaumes chrétiens tels le Portugal, la Castille ou l'Aragon. Maïmonide, par exemple, qui est issu d'une famille juive de Cordoue, est victime de cette intransigeance religieuse. Après avoir fait semblant de se convertir, il a fui et trouvé refuge au Caire, où il a pu composer son œuvre philosophique et scientifique. Les mozarabes, ces chrétiens espagnols qui ont adopté le genre de vie arabe, subissent les mêmes persécutions que les juifs. Dans la Grenade des Nasrides des années 1480-1492, tant admirés des romantiques, les seuls chrétiens qui restent sont enfermés dans des geôles.
Alors pourquoi cette nostalgie d'un âge d'or qui est liée à l'Andalus et qui est donc vous permet de titrer votre numéro d'Histoire et Civilisation, le mythe du paradis perdu, Jean-Marc Bastière?
C'est un phénomène ancien. On peut le rapprocher notamment d'un genre littéraire appelé la morophilie, c'est-à-dire le goût des thèmes mauresques. Très tôt, au moment même de sa disparition, en 1492, Al-Andalus a envoûté artistes et écrivains. Ainsi sont nées les Ballades de la frontière, qui comptent des aventures galantes et chevaleresques. La nouvelle anonyme de l'Abencerrage a pour décor l'émirat de Grenade dans ses derniers jours. Plus tard, Chateaubriand reprendra ce thème. L'orientalisme des voyageurs va alors s'épanouir, notamment dans la peinture et la littérature. Mais entre littérature et réalité, il y a un abîme. Après la Reconquête, on ne peut que constater le fossé entre la générosité chevaleresque d'une partie de l'élite vis-à-vis des morts de fiction et l'hostilité que manifeste la masse du peuple à l'égard des descendants morts restés dans la péninsule. Ceux-là, les morisques, sont socialement déshérités. Ainsi, par un retour de balancier qui a lieu à partir des 14e et 15e siècles, ce qu'on appelle alors les infidèles souffrent à leur tour de discrimination.
Merci beaucoup Jean-Marc Bastière. Le dossier d'Histoire et Civilisation, c'est donc Al-Andalus, le mythe du paradis perdu dans ce mois, donc, mais aussi d'autres sujets sur Versailles, l'affaire qui empoisonne à la cour, ou encore quand les Romains partaient en vacances dans l'Antiquité. C'est donc le dernier numéro d'Histoire et Civilisation qu'on peut trouver en kiosque. Et puis précisons que se tient encore aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France à Paris un colloque qui se tient sur le thème de « Il était une fois le centenaire, le retour sur le cycle commémoratif de la Grande Guerre ». C'est aujourd'hui toute la journée au petit auditorium de la Bibliothèque Nationale de France et on pourra faire le bilan justement dans cette journée de ce qui s'est passé pendant plus de 5 ans autour du centenaire de la Première Guerre mondiale. Quant à nous, la semaine prochaine, nous parlerons du sable. Le sable qui coule dans les doigts comme le temps, ça sera, ou comme dans un sablier, ça sera le thème de notre série la semaine prochaine avec une émission de lundi qui sera consacrée aux plages de Los Angeles. Mais mardi, nous parlerons de bien d'autres choses, du Sahara, et mercredi du verre et jeudi du béton que l'on fait parfois également avec le sable. Cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Nasser Moussaoui était à la technique avec nous et Thomas Duterre à la réalisation. Puis n'oublions pas que l'histoire continue ce week-end sur France Culture avec évidemment Concordance des temps demain à 10h par Jean-Noël Jeannet.